l'autre.
C'est un mystère qui laisse pantois les plus grands neurologues. Un phénomène que la science à ce jour n'explique pas. Comment Stéphane Bern, si cultivé dans la vie, devient-il soudain tout nul au moment du quiz? Pourquoi chaque jour, à ce moment précis où il a le plus besoin de ses neurones,
ils deviennent tout fripés?
Fripés ou pas, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question vous concerne. Enfin, je veux dire, elle est pour vous, en tout cas. Dans Historiquement Vôtre, on aime les capitaines d'industrie. Louis Renault, fondateur de l'Empire Renault, est né en 1877. Passionné de mécanique, pendant la Première Guerre mondiale, il contribue massivement à l'effort de guerre. Il meurt en prison à la libération de la Deuxième Guerre mondiale, car accusé de collaboration économique avec l'occupant. Son procès n'aura jamais lieu, mais qui sommes-nous pour juger? On lui doit tout de même l'invention de la boîte de vitesse. Vrai ou faux? Question mécanique automobile.
Oui, oui.
Lui-même voulait dire son industrie Renault ou lui-même personnellement.
Moi, je pense qu'il est tout à fait. C'était avant
détails.
Tout un ingénieur.
C'était un ingénieur.
C'était un ingénieur. Oui,
franchement,
moi, je dirais oui.
Je dirais oui. Je dirais oui parce que faut bien que quelqu'un l'ait inventé.
Oui.
Hein.
Et avant,
et c'est mieux que ce soit
donc
même, les Américains.
Même après avoir bâti Renault de toutes pièces, il continuait à. Il avait son garage en vacances dans son île là.
Oui.
Et il continuait à bricoler. Il adorait ça. C'était un manuel dans l'âme avant de devenir un grand capitaine d'industrie.
Donc vous répondez oui.
Oui, je réponds oui.
C'est effectivement Louis Renault qui a inventé la boîte de vitesse.
Oui, voilà.
Vous avez gagné!
Cocorico, c'est vrai. En 1898, il installe sur une voiturette une transmission à prise directe sans courroie. Il va breveter son invention l'année suivante. Elle sera copiée par 120 constructeurs. En 1914, je la prends avec vous. La boîte de vitesse est française. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Katzenbach. Au XVIe siècle, Yasuke a été un samouraï particulièrement légendaire. Non seulement il a fait partie de la garde rapprochée d'un des plus grands seigneurs de guerre de l'époque du Japon féodal, nous sommes au Japon, mais en plus, il était africain. Vrai ou faux?
Au XVIe siècle.
Au XVIe siècle.
Il s'appelait comment?
Yasuke.
Yasuke.
Il était... noir.
Il était sénégalais.
Mais il était plus que noir. Il était africain. C'est la question que je vous pose. Je me demande si c'est vrai ou
faux.
Oui. Si c'est pure imagination.
Il est africain. Il peut être maghrébin. Il peut être égyptien. Il peut voilà. Hein, il peut être.
Oui, mais c'est...
Écoutez, je dirais que c'est une idée que je trouve tout à fait plaisante. J'imagine bien ce samouraï africain se soumettre au rite des samouraïs qui consistait à coucher avec un homme et non pas avec une femme, question que nous avons déjà eue dans Squeeze. Donc je visualise tout à fait ce beau
ça
samouraï.
Vous plaît, cette question,
basané. Là, bon, alors écoutez, je dis oui, parce que voilà, ça peut être un fils d'esclave qui a été amené au Japon et il s'est fait remarquer par son courage ou son efficacité dans les arts martiaux et l'empereur
autre
du Japon.
Autre hypothèse à gauche, visiblement, il s'est fait repérer pour autre chose que son courage, d'après Stéphane Bern, toujours très
alors,
fin.
Il s'est fait remarquer pour ses
c'est
performances sexuelles par l'empereur du Japon et il en a fait un samouraï.
Mon Dieu, mon Dieu. Découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Eh ben
vous
voilà.
Avez non seulement gagné, mais j'ai envie de vous attribuer un point bonus, parce qu'on a presque eu la réponse, l'explication en plus de la bonne réponse. C'est vrai, il était surnommé Kulusan, l'homme noir, esclave originaire du Mozambique. Vous aviez émis cette hypothèse de l'esclave. Il faisait plus d'1m90, alors que la taille moyenne d'un japonais à l'époque était de 1m57. Il serait le premier non-japonais à devenir officiellement samouraï.
Magnifique.
Il va recevoir à ce titre les deux sabres dus à son rang. 2-1. Ainsi,
on n'a pas le sentiment que c'est injuste.
C'est ainsi, mais je suis injuste, mais la vie est injuste, Stéphane.
Oui, je sais.
Question numéro 3 pour vous, attention, question espace. Vous les adorez, celle-ci. 1969, Apollo 12 est la sixième mission spatiale américaine. Elle sera la deuxième à se poser sur la Lune. Pendant que Pete Conrad et Alan Bean explorent la Lune, Richard Gordon est seul dans le module de commande. Il trouve un coffret sur lequel est écrit « Carte d'un corps céleste ». Il l'ouvre. C'est une photo d'une playmate en petite tenue, canular de l'équipe au sol. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Ah, vous êtes bien renseigné,
oui,
donc.
Oui.
Allez, sur les missions spatiales, vous êtes pointu.
Je suis très pointu.
Vous avez gagné!
C'est une bonne réponse, Stéphane. Diane Lynn est donc la première femme dont la photo érotique est allée dans l'espace. C'était
génial.
La photo de novembre du calendrier Playboy du mois de la mission spatiale 1969. Diane nous a quitté l'année dernière à 72 ans et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Nous lui dédions ce quiz.
Faudrait mettre sa photo dans la navette spatiale.
Pour donner du courage à
sa
Thomas
photo
Pesquet.
De...
Sa oui, dernière, la plus récente, comme ça.
Oh non. Question numéro 4. Clémentine, attention, nous sommes à deux partout. Charles Lutwidge Dodgson a bien fait de prendre un pseudo. Il a choisi Lewis Carroll. Vous l'avez deviné, c'est l'auteur britannique à qui l'on doit Alice au Pays des Merveilles. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu une suite à ce roman publié en 1865, 6 ans plus tard est sorti Alice au Pays des Songes. Vrai ou faux ?
Est-ce qu'il y a eu une suite ? Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Non, si vous allez me dire qu'en fait, après Alice au Pays des Merveilles, il a produit un truc hyper violent, un polar, un ouvrage érotique.
Vous devancez toujours la réponse.
Non, alors si oui, s'il a produit Alix au Pays des Songes, oui, il a produit Alix, alors, what else ? Non, je dirais non.
Bon, réfléchissez bien.
Je dirais oui.
On le dirait oui.
Vous avez perdu.
Vous êtes dégueulasse. Ah non, alors là, vraiment non. Non, c'est trop, c'est trop.
Et oui, vous avez perdu. Mais non, mais là, c'est faux. Tammy, vous avez perdu. Vous avez perdu, Clémentine. Voilà ce que je veux dire.
Il a essayé. Non mais,
j'aurais dit oui.
La super. Mais vous avez Dieu vous punit.
Non mais c'est lamentable. Ah, là,
je sais pas
mais
qui.
C'est
Dieu la
régie. Non mais venez,
Dieu
mais c'est ça. On quitte le studio.
Écoutez, non, mais le juge. Êtes... Écoutez, en plus c'est à demi faux.
Mouvement de grève.
C'est vraiment une question piège parce que c'est ce qui est faux, c'est le titre. Car Alice au Pays des Merveilles, la suite, a effectivement existé, sorti en 1871. C'était De l'autre côté du miroir, c'était le titre, et le film Disney que l'on connaît est une adaptation des deux livres fusionnés. Okay. Ce qui nous amène directement à la cinquième question.
Voilà, mais vous avez tout fait pour lui donner plus de points qu'à moi.
Non, je n'ai rien fait du tout. J'ai tout fait pour que nous assistions à cette dernière question.
Non, parce que là, vous avez cru qu'elle avait gagné.
Écoutez bien.
Moi, je suis écœuré. Non.
Écoutez.
Et l'autre question, vous lui ai donné 2 points. Voilà.
Je vous avais
promis une grève illimitée. Je ne réponds pas.
Je vous avais promis des Japonais, des Africains et des spaghettis.
Où sont les spaghettis ?
Voilà les spaghettis. Question de rapidité. 3 propositions, vous me donnez la bonne réponse. On connaît tous la blague d'Orson Welles qui, le 30 octobre 1938, a fait croire à la radio, CBS, qu'il y avait une invasion de Martiens. Eh bien, la télé BBC, en 1957, la chaîne de télé BBC, a diffusé, le 1er avril, un reportage étonnant mais complètement bidon et qui a vraiment été pris pour argent comptant par les téléspectateurs. Lequel des trois ? Un reportage sur une famille suisse dont le métier était de cueillir des spaghettis dans un arbre à spaghettis. Un reportage sur un nouveau jeu ressemblant au basketball sauf que la balle était remplacée par des lapins. Un reportage sur l'invention d'une nouvelle couleur. Mais comme le reportage était en noir et blanc, on ne se rendait pas bien compte. Victoire de Clémentine. Stéphane, t'avais pêché par manque de rapidité. Autrement dit, par lenteur. Victoire de Clémentine Portier-Cadillac, les spaghettis qu'on cueillait dans les arbres.
Oui, enfin, vous aviez annoncé en même temps.
Oui, c'est vrai, je
mettais. Une question sur les spaghettis.
Oui, ça pouvait être juste. Oui, c'était pas forcément la réponse. Oui. Enfin, c'est pour ça que vous avez dit spaghettis tous les deux.
Ah non, moi je connais cette histoire.
Oui,
Oui. Ah, donc, ouais. c'est une belle victoire, on peut le dire. C'est pas une victoire de.
C'était pas hasardeux, je connais cette histoire.
Les spaghettis qu'on cueillait dans les arbres, le producteur du journal a déclaré ensuite que c'était l'occasion de moins croire ce que disaient les journalistes. Mmh. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mouvement s'est amplifié depuis. Belle victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, je suis assez contente de moi.
Oui, c'est vrai. Et Stéphane, on ne peut pas parler.
Si on me rajoute un petit point.
On ne peut même pas parler de belles défaites pour Stéphane.
Ça fait pas de mal.
J'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées.
C'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais elle a répondu. Elle a eu 2 points parce qu'à un moment, j'ai décidé qu'elle aurait 1 point en plus.
Voilà, c'est arbitraire.
Sur mon beau samouraï,
c'est le rêve de l'arbitraire.
On a fait la révolution, hein, pour moins que ça.